Oh les beaux jours, nouveau festival littéraire, vous invite à découvrir les livres et la littérature autrement, du 23 au 28 mai à Marseille. Près de 100 auteurs et artistes se réunissent dans divers lieux culturels et vous proposent des grands entretiens, des rencontres, des lectures musicales, des concerts dessinés et des ateliers pour la jeunesse. Retrouvez Daniel Pénac, Russell Banks, Maëlys de Carangal, Joseph Boyden, Kamel Daoud et bien d'autres. Et rendez-vous le 24 mai de 14h à 20h à la Friche Belle de Mai et sur le 88.8. La Grenouille sera en public et en direct pour une grande journée littérature et hip-hop. Oh les beaux jours, c'est du 23 au 28 mai à Marseille. Toute la programmation sur ohlesbeauxjours.fr.
L'école du micro français, c'est ce qui va nous intéresser avec mes trois invités pendant une grosse demi-heure, ici même à la Friche La Belle de Mai. Comment le rap est devenu français? Qu'est-ce qu'il a? Comment on le raconte? Qu'est-ce qu'on a pu en voir d'un phénomène de mode qui peut-être à la base était éphémère, un véritable phénomène de société? Nos invités l'ont un peu étudié au niveau national, au niveau marseillais, au niveau local. Et des perspectives, on en aura avec aussi notre invité Sylvain Berthaud. Bah tiens, je vous présente tout de suite. Bonjour Sylvain. Bonjour. Vous êtes l'auteur de mixtape qui vient de paraître, Homo et le reste. Et vous êtes également l'animateur du blog Fake for Real, véritable référence dans le rap, et tous les liens évidemment seront sur le www.radiogrenouille.com. À ma gauche, un camarade d'ici même de la Friche La Belle de Mai, monsieur Julien Valnet de l'AMI. Salut.
Bonjour,
Julien.
Bonjour Simon, c'est un plaisir de te retrouver sur l'antenne de Grenouille.
Bah oui, tu es l'auteur de Mars, histoire du hip-hop marseillais, paru aux éditions Way Project. En 2013, un sacré boulot. T'es parti à la rencontre de pas mal d'acteurs de cette scène marseillaise d'hier et d'aujourd'hui.
Exact, une soixantaine, un peu de tout, des danseurs, rappeurs, managers, producteurs, amateurs, journalistes, etc.
Une sacrée somme aux éditions Wild Project, encore qu'on salue. Et Karim Amou, bonjour Karim.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, si je ne m'abuse.
C'est ça.
Et auteur de Histoire du rap, une histoire du rap en France, j'imagine que c'est très important.
Tout à fait, je pense qu'on va y revenir.
Voilà, paru aux éditions La Découverte, vous venez d'ailleurs de re-signer une postface inédite justement pour avoir porté un nouveau regard à cette première étude. Et ouais, je vais commencer tout de suite avec vous. Comment on fait pour raconter une histoire du rap en France, Karim?
Alors effectivement, le une, il est important par rapport au fait que le pari du livre et de pas mal d'autres livres qui ont été publiés ces dernières années, c'est d'entrer dans la complexité, dans les histoires du rap qu'on peut raconter en France, à Marseille, à Toulouse, à Lille, à Paris. Et c'est ça qui est vraiment chouette. C'est là où quelque chose se produit dans le domaine de l'écriture sur cette histoire depuis une demi-douzaine d'années, on va dire. On a vraiment aujourd'hui plusieurs histoires, plusieurs choses à raconter, plusieurs angles. Et c'est là qu'enfin on a un rap qui prend sa vraie mesure en termes d'inscription dans l'histoire.
Y a-t-il une école du micro français, alors, Karim?
Ah voilà, la question.
Ah bah oui.
Ben non, il n'y a pas une école, je pense qu'il y en a évidemment plusieurs. Et c'est peut-être aussi se demander pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de singulariser une et une seule et de la labelliser nationalement, alors que peut-être qu'une des choses que le rap travaille dans plusieurs pays, pas seulement la France, depuis 30 ans, 40 ans.
Le meilleur exemple aux États-Unis, bien sûr.
Exactement, mais partout, au Sénégal, au Japon, en Amérique latine, en fait, le rap travaille, le hip-hop travaille des frontières qui ne sont pas seulement nationales et qui sont transnationales, qui sont locales, et c'est une des choses qui le rend si riche.
Sylvain, je vous voyais direct approuver.
Oui, non, j'approuve sur le fait qu'il y ait plusieurs écoles. Et sur le fait, c'est une bonne question. Est-ce que le rap français, c'est un genre en soi, en fait? Et c'est pas forcément évident, parce qu'on va retrouver des tendances qu'on retrouve aussi au niveau du rap international. Et je vais citer un rappeur illustre qui n'est pas marseillais, qui est Booba, qui avait dit une fois qu'il contestait l'étiquette même de rap français. Il disait, moi, je fais du rap. Voilà, la même chose que ce que font les Américains, c'est le même genre. Voilà, donc la question, est-ce que le rap français, bon, il a une histoire, il a des histoires, comme le dit Karim. Est-ce que c'est un genre en soi? Ou est-ce que c'est la même chose que le rap international? C'est une bonne question et la réponse n'est pas simple.
Y a-t-il une école du rap marseillais, alors, du coup, Julien?
Tu sais bien qu'on est marseillais, donc on est un petit peu au-dessus du reste, forcément. Alors pareil pour le rap marseillais, il y a, D'un côté oui, d'un côté non. D'un côté, le rap marseillais est inscrit au sein du rap français. Et s'il y a eu peut-être à une époque une vraie griffe, une vraie couleur, un vrai flow, toi aussi avec une forme d'utilisation de l'accent, parce que les gars ici ont l'accent, ce truc c'est peut-être un petit peu calmé, ou en tout cas on trouve aujourd'hui peut-être moins de différence entre le rap parisien, le rap marseillais. Peut-être que ça s'est un petit peu nivelé avec le temps, mais ça c'est, ce sera vérifié quand même.
Karim ?
C'est effectivement une vieille question, et le plus intéressant c'est que c'est une vieille question dans le rap lui-même et entre rappeurs de longue date. Effectivement, tu cites Booba, on pourrait remonter à La Mafia Underground dans les années 90, un groupe de la région parisienne qui revendiquait le fait de faire du rap en français, mais pas de faire du rap français, et qui assumait l'importance, selon eux, de rester au plus près, notamment stylistiquement, en termes de flow, en termes de prod, de l'actualité du rap états-unien. Et il y a aussi cette question des influences, influence internationale, ça peut être états-unien, mais pas seulement. Aujourd'hui, le hip-hop est vraiment globalisé.
Qui passait par les samples aussi utilisés pour la production des musiques, etc.
Et puis j'ai même envie de remonter 10 ans avant encore, c'est-à-dire La Mafia Underground, c'est les années 94, mais en fait, déjà en 84, autour de l'émission HIP et HOP, la question même de rapper en français était un enjeu de débat parmi les premiers b-boys, les premiers rappeurs en France. Et donc le fait déjà peut-être de choisir cette langue et de privilégier cette langue, c'est peut-être là aussi qu'il y a quelque chose qui s'est joué à cette époque-là.
Julien,
tu vois, par exemple, pour revenir sur le contexte marseillais et pour aller dans le sens de Karim,
on peut déplacer les focus comme ça.
Le premier album, le seul album du Soul Swing, donc le groupe de Faf La Rage, Karim Leroy, DJ Majestic, DJ Rebel, j'en oublie un, Dave Bond, donc sort en 96, et eux, ce qu'ils voulaient à ce moment-là, c'était le son new-yorkais. De la même manière que IAM, on l'a entendu sur Grenouille quand ils ont fait leur émission spéciale
pour les 20 ans d'école du micro d'argent.
Ils voulaient le son de l'album de Mobb Deep, de cet album-là, qui est, je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs, mais excusez-moi. Donc voilà, il y a un rapport, on le capte sur le son, qui est très très proche avec le rap états-unien, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sortent aux États-Unis et qui après sont reprises en France. Enfin, bon, c'est un peu une généralité, mais par exemple sur la trappe, tu vois.
Et d'ailleurs, je voudrais rebondir là-dessus, parce qu'on parlait de différences qui s'atténuent entre Paris et Marseille. Les différences, elles existent. Stylistiquement, elles sont quand même moins marquées que ce qui peut exister aux États-Unis. L'axe Paris-Marseille, il se cale un petit peu sur la confrontation East Coast-West Coast qui a existé à un moment aux États-Unis, donc entre la Californie et New York, pour simplifier. Et la différence stylistique est énorme. On reconnaît aux premières notes du rap new-yorkais et du rap californien des années 90. La différence, elle existait aussi entre Paris et Marseille. Il y a l'accent, les références, quelquefois le son. Enfin, il y a des différences, mais elles sont beaucoup plus subtiles. Et on a parlé de New York et de Mobb Deep. Et ce qui est intéressant, c'est que New York, et en particulier ce groupe, on a mentionné Mobb Deep, ça a été une influence partagée très longtemps par l'ensemble de la scène française, que ce soit Paris ou Marseille. C'est-à-dire qu'il y avait, si on doit rattacher le rap français aux différents sous-genres du rap, c'est le rap East Coast, enfin ça a été, maintenant il y a la trap et tout ça, donc c'est complètement différent. Mais à l'origine, dans les années 90, la France avait le regard complètement braqué, quasiment exclusivement sur New York.
On va revenir justement sur ce point, ce qu'a raconté hein, justement par le rôle joué par les radios, notamment dans la diffusion de ces différentes dynamiques. Juste avant, j'aimerais bien qu'on écoute et que tu me présentes, Julien, les petits extraits qu'on va entendre qui sont tirés de la BO. La bande originale de cet ouvrage, Mars, histoire et légende du hip-hop marseillais, je l'avais mal prononcé. Une BO proposée par DJ Djel, qui est en téléchargement libre d'ailleurs sur le site de Djel.
On n'a jamais obtenu les droits pour la sortir, donc du coup on l'a mis en téléchargement libre.
Une mixtape qui accompagnait justement, qui accompagnait tout ça.
Ouais, et c'était un super projet parce que je sais que Djel a vraiment travaillé ce truc. Il y a passé tout son mois d'août 2013 et on a mis, je crois, on discutait, c'est-à-dire il y avait ce côté où je trouvais qu'il y avait certains groupes qui n'étaient pas assez mis en avant, donc on les a plus mis en avant sur la mixtape, par exemple Carré Rouge, tu vois. Très beau travail, très fin. 70 morceaux mixés, je crois, en 72 minutes, en 70 minutes, un truc comme ça. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, il a fait un choix qui est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'il a repris les sons originaux de l'époque. Donc par exemple Concept, c'est une cassette. Quand il avait les vinyles, il a joué les vinyles. Quand c'était du CD, il avait du CD. Donc ça, il n'y a pas d'unité dans le son. Et on a fait le choix, il a fait le choix de garder, de pas remixer après pour mettre tout à plat, mais de garder les différents médiums de base, le son original du médium de base.
Écoutons les 4-5 premières minutes justement de cette mixtape avec les bruits de radio et tout qu'on adore.
M A R S.
Marseille, la porte de l'Orient. Marseille et ses docks, son milieu, sa pègre. Marseille et son or blanc, l'héroïne qui a fait sa renommée dans le monde entier.
Son charme et son pareil, joyeuse.
Jusque dans les années 40, des marins trafiquants font arriver l'opium à Marseille. C'est l'âge d'or du trafic. Nombre d'écrivains, artistes, poètes y trouvent une source intarissable d'inspiration.
Les pionniers du rap, Philippe et Yannick sont les premiers en France à avoir osé rapper sur l'antenne de Radio Star.
Très vite, on s'aperçoit qu'il y a plein de jeunes qui veulent faire pareil. Il y a plein de jeunes qui, dans les cités, dans les quartiers de Marseille, dansent aussi, début des années 80. Et on monte un groupe qui s'appelait le Marseille City Breakers.
1984, présentation du film Beale Street à Cannes. Au milieu de tout le gratin du hip-hop, les Marseillais sont parmi les invités. Dans le sud, le mouvement se met en place.
Give me a stage and a mic and a mix and I'll put you in a mood. Or is it a state of unawareness? Beware, it's the reanimator.
Pourquoi vous chantez Marseille? Qu'est-ce qu'il y a dans cette ville qui vous attire et qui vous fascine particulièrement?
C'est ma ville natale. Et comme tout Marseillais, je l'aime dès mon enfance.
Marseille de nouveau en effet. International autonome et Marseille ça fait.
DJ Jell.
J'ai fait du 9 pour les brothers. Ne sachant pas, le réveil sera dur, mais c'est 88. Alors fais là un chrono. Vous savez quelle heure il est maintenant sur le micro. Car le succès pour mon groupe se profile. Succès est pour les formants poissy en ville. Alors amis, la vie, la danse qui obéit à ce que je produis, mon hip-hop régie. Marseille, et c'est le vrai deal. Tu danses et wap sur les mots du frère Chill. Entièrement ce jam est garanti. Funky et la rime, funky sont les mots, le beat est funky. Au possible pour le son qui, donkey, a des airs de Bronx dans Boogie. C'est identique mais ça vient de la Méditerranée, fossé et non de Paris. Le rythme est radicalement beau, musicalement chaud. Automatiquement doublé de nos voix sur le micro. Je ne suis pas le genre de mec qui ment trop, alors je dis peace pour ce morceau.
Le rap effectivement est en train de tout emporter sur son passage. C'est parti avec un groupe de rap, ils sont marseillais et le groupe s'appelle A.A.M. Alors, le rap à Marseille, vous êtes la preuve vivante que ça existe.
Karim Amou, je vais pas vous lâcher comme ça. Hein. Je vous voyais chanter directement les paroles de ce morceau de 88 où on entendait Monsieur Chill, a.k.a. AKH, maintenant. Qu'est-ce qui vous évoque ce morceau?
La Méditerranée, scratché ensuite, et qui en 88, alors qu'il y a à peine quelques premiers vinyles et quelques premières cassettes de rap en français réalisées par des spécialistes de l'interprétation rappée, pas des gens qui vont le faire de façon occasionnelle le temps d'un morceau. À un moment où il n'y a presque aucun enregistrement, c'est déjà cette façon de situer d'où on rappe qui s'impose derrière le micro. Je pense que c'est un élément de réponse sur la question de la francité ou pas, c'est d'où on rappe. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans le rap en France, à Marseille, à New York, à Dakar, etc.
Qu'est-ce que ça t'a évoqué, toi, de réentendre ça, Julien? T'as pris plein de notes.
Ouais, direct. Parce qu'en fait, j'avais pas écouté l'intro de cette mixtape depuis super longtemps. Alors, ça commence par Bob Marley. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça commence, le lien entre le reggae, le raga et le hip-hop, en tout cas ici à Marseille, est fondamental dans la première genèse du hip-hop marseillais.
Au tournant des années 80, là.
Voilà, dernier concert en France, je crois, de Marley, c'est au Stade Mayol à Toulon en 81. Après, il va décéder d'un cancer, comme chacun sait. Et dans l'audience, il y a le futur Massilia Sound System, il y a Joe Courbeau, qui est aussi donc le papy un peu de tous les rappeurs, qui est le premier à avoir fait de la tchatch en marseillais sur des versions de reggae. Et après on passe direct sur The Clash, parce que The Clash, en fait, c'est la première fois qu'on voit du rap en France, c'est lors d'un concert de The Clash, pareil, en 81 à Paris, Et il y a Futura 2000 qui rappe un petit peu et qui fait une fresque. Et on sait très bien aussi que The Clash a enregistré Futura 2000 sur The Magnificent Seven, je crois. Et donc, petit clin d'œil, et tu vois, et le bouquin, il commence aussi, aussi là-dessus. Après, il parle de Phil et Yannick. Donc ça, c'est la fondation, Philippe Subrini. C'est pas moi qui le dis, c'est Akhenaton qui dit que Philippe Subrini est la fondation. Philippe est un monsieur qui a pas loin de 60 ans maintenant, qui est très sympathique, et qui, en fait, a fait la première émission de rap, mais ils allaient super loin. C'est-à-dire qu'ils se débrouillaient, parce qu'ils étaient en contact avec la Tommy Boy à New York, de récupérer les premières publication de la Zulu, et il les traduisait en français et il les distribuait comme ça, Zulu Nation, Marseille, nanana. Et après, ça parle des MCB, donc là c'est les premiers danseurs, Marseille City Breakers, de la Busserine. D'ailleurs, petite parenthèse politique, la mairie du 13-14 est en train de fermer l'espace culturel Busserine, oui, oui, qui servait d'espace d'entraînement au Marseille City Breakers. Donc voilà, le Front National est en train de tirer une croix sur un lieu qui est patrimonial du hip-hop marseillais, tout simplement. Voilà, enfin après on pourrait encore enchaîner. Et ça finit sur la cassette concept d'IAM. Et ce qui frappe, c'est que toi, on entend 3 secondes de son et on est frappé par la qualité de la production d'Imhotep. Direct, c'est d'un niveau, c'est un niveau extraordinaire, quoi.
Sylvain Berthaud.
Oui. Non, j'ai relevé plusieurs choses. Et pour revenir à la question de départ, y a-t-il une spécificité du rap français ? Enfin, c'est celle qu'on a posée un peu plus tôt. La réponse est oui et non, en fait. J'ai noté plusieurs choses. Ce qu'on disait sur le fait de représenter son quartier, représenter sa ville, ça, c'est général, c'est générique. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement propre au rap et à tous les raps.
On a souvent tendance à l'oublier, surtout pour les spécificités françaises.
Oui, c'est peut-être un petit peu moins vrai aujourd'hui, mais dans un premier temps, voilà, on représentait son quartier, sa ville, sa région, et IAM, I et M, comme ils le disent. IAM l'a très bien compris, hein, naturellement, ils ont affirmé leur identité marseillaise haut et fort. Donc ça, c'était sur le modèle américain, quelque part. Donc ça, ça relie quelque part le rap français au rap international, américain. Après, il y a quelque chose que tu as mentionné sur l'alliance ou la proximité avec tout ce qui est raga, reggae, dancehall. C'est un peu plus spécifique. C'est vrai aussi aux États-Unis. Le rap a des origines jamaïcaines, faut le rappeler. Et puis, il y a des groupes comme Boogie Down Productions à New York et compagnie qui avaient des liens avec le raga dancehall, avec la Jamaïque. Mais c'était assez fort, effectivement, en France. Il y a eu pas mal, un long moment où c'était un milieu incestueux, cette partie rap pure et dure et la partie un peu plus d'influence jamaïcaine. Donc, voilà, un côté un peu plus spécifique, peut-être, je ne pense pas me tromper, du rap français qui le démarque un petit peu de ce qui peut se faire ailleurs.
Justement, Karim Amou, ma prochaine question était par rapport à cette spécificité, on va dire, si on nomme là comme ça dans tous les cas aujourd'hui, cette spécificité marseillaise. Et vous, dans votre étude, dans une histoire du rap en France, quel parallèle vous avez pu dresser entre le rap à Toulouse, Lille, Paris, celui de province, on va dire?
Alors, c'est intéressant parce que moi, j'ai fait une recherche de sociologue, donc mon travail était vraiment sur comment est-ce qu'on fabrique du rap.
Extrêmement documenté.
Avec qui on le fait, comment. Et mon projet de départ, c'est quand même, je peux rappeler que c'était une thèse que j'ai faite à Marseille, à la Vieille Charité, au Panier. Et c'est une thèse qui se voulait être une comparaison entre le rap marseillais et le rap parisien. Et en fait, pour ce qui est des réseaux professionnels, de la façon de travailler, de tout un ensemble de choses, et donc c'est pas pour aller dans le sens inverse de ce qui a été dit sur le plan esthétique, il y a probablement eu une touche marseillaise, une scène marseillaise esthétique, mais en termes de réseaux professionnels, la fin des années 90, au début des années 2000, il y avait une force des liens entre Paris, Marseille, en fait, pas Paris, mais la région parisienne avec toutes les villes. On croit que c'est Paris, mais c'est Sarcelles, c'est Vitry, c'est Saint-Denis, c'est Paris aussi, et des connexions aussi avec les autres villes de France, Lyon, Strasbourg, Toulouse. Et donc, du coup, très rapidement, c'est une histoire du rap en France qui s'est imposée pour aussi ouvrir vers toutes les histoires qui restent encore à raconter, travailler sur ce qu'a été l'éclosion et le développement du hip-hop à Lille, à Toulouse. Il y a des choses passionnantes, on entend, voilà, ça vient de la Méditerranée, c'est aussi rappeler les connexions très fortes entre la scène toulousaine et la scène marseillaise, avec Massilia Sound System, et y compris avec Chill et Joe qui tournaient avec eux à un moment donné, avec les Fabuleuses Troubadours, c'est avec la scène émergente
raga rap de Toulouse, la Ligna Imagino, comme ils avaient théorisé ça en 1990, d'où beaucoup de choses vont naître pour toute l'histoire du rap français ensuite, la Funky Family pour ne pas la citer entre autres.
Et qu'est-ce qu'on peut dire justement après sur ce maillage, sur cette nouvelle scène en fait qui s'est créée, qu'est-ce qu'elle a eu de caractérisé justement par aussi, je sais pas, on évoquait tout de suite le rôle des radios pour découvrir tout ça et pour s'échanger, et pour enregistrer, on l'entendait aussi dans la mixtape de gel tout de suite. Ouais.
Je pense que s'il y a des écoles ou une école du micro français, c'est aussi parce que ce sont des histoires françaises. Il y a des choses qui s'imposent à l'échelle de l'ensemble d'un pays, parce qu'il se trouve que plein de décisions impactent l'ensemble du pays. La loi sur la libération des ondes radio, par exemple, en 81, ça a impacté tout le pays. Ça a fait des possibles musicaux incroyables dans toutes les villes de France. Et puis, 15 ans plus tard, la loi sur les quotas de chansons françaises à la radio, ça a aussi eu un impact national et effectivement qui s'arrêtait aux frontières nationales. Et du coup, il y a cette espèce d'histoire ce contexte national a des effets effectivement sur le rap.
Comment les gros... Julien, vas-y.
Non, juste pour rebondir sur ce que disait Karim sur le lien Paris-Marseille, il y a un truc très simple aussi, c'est Marseille est en périphérie des cercles de pouvoir. Le pouvoir, la décision, l'argent, la production se fait à Paris. Et en fait, si tu fais exception...
Là, pour le coup, c'est Paris-Paris.
Paris-Paris. Si tu fais exception du cas de Jul, qui est un peu un ovni, où le mec, il a quand même réussi à se faire tout seul, il n'y a pas un seul disque d'or marseillais qui a été fait sans l'appui de la grosse industrie musicale parisienne. Voilà, tout simplement.
Bah, j'allais y venir, mais du coup, merci Julien, sur le comment justement les grosses radios nationales se sont emparées de ça. On entendait tout à l'heure dans la mixtape de Gel, on entendait Radio Star, on en a discuté tout à l'heure avec Rebel par rapport à Grenouille, par rapport à Galère, etc. Comment les gros réseaux de radio, les Fun Radio, les Skyrock se sont emparés de ce phénomène? Ça a été une bataille de slogans, ça a été...
C'est rigolo parce qu'en fait, ces grosses radios, elles ont elles-mêmes une histoire. Et en 83, elles n'existent pas. Il n'y a pas ces grosses radios. Énergie, qui commence tout juste, c'est une petite radio qui a un gros appétit et qui va inventer la grosse radio commerciale en imposant la publicité, en détournant l'esprit et la lettre de la loi de l'époque, avant que ce soit entériné par le pouvoir de droite en 86. Et donc en fait Fun Radio, Energy et Skyrock, c'est des grosses radios jeunes qui arrivent à, on va dire, à une espèce de maturité commerciale au début des années 90. Elles vont mettre du temps avant de s'intéresser au rap français. Dans un premier temps, ça les intéresse pas. C'est pas quelque chose, à l'exception de quelques émissions de ci de là, ça reste en région parisienne et dans l'ensemble de la France, ça reste dépendant de radios associatives, de petites radios locales, etc. Radio Nova en région parisienne, mais en fait toutes sortes de radios aussi ailleurs en France. Et donc les choses vont se jouer en deux temps avec la loi sur les quotas de chansons françaises, pour des raisons à la fois d'opportunité pour se mettre en conformité avec la loi. Bah voilà, il faut diffuser des gens qui chantent en français, alors pourquoi pas diffuser des gens qui rappent en français, mais aussi pour des raisons de concurrence entre réseaux radio.
Comment ça a été reçu à l'époque par l'audience qui connaissait pas forcément justement tous ces nouveaux sons?
Bah, l'audience, c'est quelque chose d'assez abstrait, et d'ailleurs c'est là qu'on voit que les programmateurs radio se trompent parfois, parce que Energy, Fun Radio et Skyrock sont convaincus que le rap ça peut pas marcher, ça va pas plaire, parce qu'en fait ils projettent leur propre rapport à la musique sur des auditeurs dont ils savent pas tout, et finalement timidement avec la loi sur les quotas ils se mettent à mettre du rap qui soit pas trop rap quand même, du rap avec des refrains chantés, des choses comme ça, et ils se rendent compte que ça leur permet et de remplir les quotas et puis que leur audience ne s'effondre pas. Et par contre, il y a un vrai tournant qui se joue entre 96 et 98, qui est vraiment un pari qui est fait par Skyrock, mais pas un pari aveugle, un pari sur lequel ils testent, ils se rendent compte que ça accroche, etc., de diffuser beaucoup plus massivement du rap français, et ils se rendent compte que leur audience décolle alors qu'ils étaient en perte de vitesse par rapport à Fun Radio et Energy depuis 5 ans, en fait, à ce moment-là.
En 91, NTM se posait la question du monde de demain. Je vous propose qu'on écoute justement un petit... On vous en parlait d'ailleurs dans votre ouvrage, Karim.
Oui, je préfère la facilité, considérant que le boulot m'amènera plus vite. Au bout dans mon cas, aux abords de vos toits. Et si cela est comme ça, c'est que depuis trop longtemps, des gens tournent le dos aux problèmes cruciaux, aux problèmes sociaux qui asphyxient la jeunesse qui réside aux abords, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord. Ne vous étonnez pas si quotidiennement l'expansion de la violence est telle, car certains se sentent seulement concernés lorsque leurs proches se font assassiner. Est-ce aussi la liberté, égalité, fraternité? J'en ai bien peur.
Le monde de demain, tant qu'il a bien nous appartient, la puissance est dans nos mains, alors écoute ce refrain. Devient un acte trop banal, alors va faire un tour dans les banlieues, regarde ta jeunesse dans les yeux.
NTM, Le Monde de Demain, 1991, album authentique, et visiblement il y a controverse sur ce morceau. Je ne le savais pas, je ne la connaissais pas, Julien m'a interpellé, visiblement Karim connaît l'histoire aussi. Messieurs, je vous laisse, qu'est-ce qui se passe avec ce morceau?
Ce sample est bon, trop bon.
Ouais. Donc, c'est un sample de Marvin Gaye, c'est ça? Ouais. Et donc, comme tu disais, Karim,
ça vient de la Méditerranée.
Voilà, c'est The B-Side, premier track, première phase B de Chill en 88. Donc après, il y a eu un petit contentieux, je ne me rappelle pas bien des détails, mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que, bah voilà, hein, à jamais les premiers. Hein.
À jamais les premiers, c'est ça, dans ce titre-là. Sylvain, je voulais déplacer justement le focus avec vous sur tout ce qu'on vient de dire justement, oui. sur le rôle des radios, etc. Et sur les diffusions et les mises en place et le maillage de cette scène rap français.
Ouais, moi, ce qui me marque, alors j'ai toujours mon spectre américain, comparaison, voilà. Ce qui me marque, c'est que ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une histoire quelque part du rap français. C'est-à-dire qu'on a dit que même Marseille devait passer par Paris. La France, c'est pas si grand que ça. C'est une langue, c'est très centralisé. On parlait du déploiement des radios. Bah, les radios, on entend plus ou moins les mêmes dans toute la France. Ce qui, je pense, a quelque part unifié un peu le rap français. Si on compare un peu au rap américain, la situation est très différente. Les États-Unis, c'est vaste, c'est une fédération, hein, c'est plein d'États différents, c'est plusieurs mondes qui ont leur propre industrie, leur propre réseau de radio différent. Et aux États-Unis, il y a vraiment des scènes qui sont développées, qui sont créées et qui s'ignorent. Il y a des gens qui sont devenus gros dans les années 2000, qui s'est développé dans le sud des États-Unis, qui étaient déjà énormes dans leur état d'origine, sans que le reste des États-Unis s'en rende compte. Donc ça a créé une grande diversité, fragmentation de la scène rap, qui n'est pas forcément aussi manifeste, aussi importante en France, malgré l'opposition et la rivalité Paris-Marseille. C'est mon impression.
Karim.
Les États-Unis, c'est un continent, en fait. Et effectivement, je suis assez d'accord. Alors, on peut le relativiser un peu, parce qu'effectivement, les radios nationales, pour ce qui est du rap, ne deviennent nationales que dans la deuxième moitié des années 90. Et puis, il y a toute cette polémique et ce problème sur lequel Skyrock a beaucoup fait parler, qui est la question du nombre d'émetteurs. Et donc Skyrock n'émettait pas partout en France. Mais par exemple, dans certaines régions du nord de la France, il y a aussi des formes d'autonomie liées au fait que le rap a été pendant longtemps toujours dépendant, au début des années 2000, des réseaux de diffusion SP, etc. Reste que, effectivement, dès 1990-91, toute la France peut regarder sur M6 Rapline. Alors là aussi, il y a quelques exceptions, mais voilà, il y a des HIP, HOP en 84. Enfin voilà, il y a vraiment des moteurs médiatiques comme ça qui touchent l'ensemble du pays.
Sylvain, vous vouliez rajouter
Non, je suis parfaitement d'accord.
Je voyais approuver. Justement, messieurs, aujourd'hui, maintenant, la question des émetteurs radio, des émetteurs télé, etc., ne se pose plus, grâce à plein de merveilleux moyens qu'on a dans Internet. Quel regard vous portez, toujours le regard du chercheur aujourd'hui? L'histoire, elle est toujours en mouvement. C'est ce qu'on évoquait également par rapport au hip-hop US. Ça paraît une évidence de le raconter comme ça. Mais quel regard vous portez, justement, quel regard porte le chercheur sur la scène, sur ces 16 écoles des micros français aujourd'hui?
Moi d'abord,
vous avez le temps.
La première chose qui me frappe, c'est que en dépit de tout fait concret, on a continué à donner le rap en France pour quelque chose qui n'allait pas durer, c'est-à-dire encore au début des années 2000, avec la crise du disque, on a tenu des discours comme quoi le rap allait disparaître, comme quoi c'était fini, et le rap et le hip-hop ont démontré dans les différentes villes en France, et a fortiori aussi aux États-Unis, une capacité à se réinventer qui en fait vraiment quelque chose d'exceptionnel sur le plan esthétique, sur le plan culturel, sur le plan social. Donc moi aujourd'hui, voilà, mon histoire du rap en France, elle était publiée en 2012, elle s'arrête globalement à la fin des années 2000. Ça fait maintenant, ça fait quasiment presque 10 ans que l'histoire continue et que voilà, moi je la regarde un petit peu
plus loin.
Moi, aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est essentiellement la diversité des propositions artistiques qu'on peut trouver en français, rappées en français, voilà, avec aujourd'hui une vraie pluralité des artistes auxquels on peut avoir accès selon les régions. Hein. Pendant longtemps, on avait du rap francilien et des raps locaux. Puis on a eu du rap francilien, du rap marseillais et des raps locaux. Aujourd'hui, on a des raps de toutes les villes de France. On a des artistes qui explosent au niveau national, de Toulouse, du Havre, de Strasbourg, de Lyon, de partout. Mmh.
Avec aussi plus d'engagement dans la production. On sort des modèles classiques. On applique par exemple des modèles qui peuvent marcher comme avec des live bands comme les Roots, avec des je pense tout de suite comme ça à quelqu'un, un MC comme Jazzy Baz, etc. Par exemple, il y a beaucoup plus d'engagement dedans. Ouais.
Ouais, il y a eu des initiatives comme ça assez tôt, hein, mais effectivement, voilà, c'est leur nombre et leur ampleur aujourd'hui qui fait qu'il y a vraiment une diversité où beaucoup de générations et beaucoup de goûts musicaux différents peuvent se retrouver dans l'ère rap.
Julien ?
Ouais, bah, j'irais exactement dans le sens de Karim. Ce qui est intéressant pour la période actuelle, sans être un grand spécialiste, loin de là, mais pour avoir des collègues...
C'est pour ça qu'on t'invite. Hein.
Pour avoir des collègues qui sont très très branchés rap français, moi ce qui me fascine, c'est qu'ils arrivent à me faire écouter des trucs qui n'ont rien à voir. Tu vois, enfin, moi j'ai bien bloqué sur plusieurs artistes récemment, genre Douskawa par exemple, qui a vraiment un style à lui. Un mec qui s'appelle Taipan aussi, qui est encore dans un autre style. T'as des trucs plus trap, t'as des trucs plus boom bap, t'en as vraiment pour tous les goûts. Et effectivement, il y a un gros renouvellement depuis alors quelques temps, on va dire, de la scène française. Et effectivement, la grosse qualité du hip-hop, c'est sa capacité de renouvellement et de se réinventer en permanence. Mmh. Ce qui est assez fou, d'ailleurs.
Sylvain.
C'est lié aussi à sa position dominante. Mmh. Aujourd'hui, la musique dominante, c'est le rap. Voilà. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est le rap. Quelqu'un qui veut dire quelque chose, qui est créatif, quelle que soit sa ville, qu'est-ce que soit ce qu'il a envie de dire, quel que soit son milieu social, à 90% il va faire du rap. Donc forcément il y a une diversité de gens motivés par le rap qui va enregistrer une diversité stylistique qui n'est pas forcément liée à la provenance, à la région, au pays. On observe ça en France, on observe ça partout ailleurs, quoi. Il y a une grande fragmentation qui est liée à la posture, à la position dominante du rap, et aussi beaucoup à Internet qui brouille complètement les réseaux, les associations d'artistes. Enfin, voilà. Il n'est plus besoin de connaître les gens, de les rencontrer dans une salle de concert ou de vivre au même endroit pour se connecter, pour découvrir qu'on a des goûts en commun. Ce qui rend un environnement très créatif, très divers et aussi très compliqué, très difficile à lire.
Alors, avec paradoxalement un truc qui est qu'on en est encore quand même, encore et toujours, à devoir défendre le hip-hop comme une pratique culturelle, notamment... dans la production d'événements culturels, tu vois.
On peut parler de Village Hip Hop, par exemple.
Voilà, par exemple, Village Hip Hop,
organisé par l'AMI, ouais.
Voilà, qu'on organise avec l'AMI, est essentiellement financé à la politique de la ville, donc au social. Mmh. Donc, en fait, on répond à des missions du type lutte contre le djihadisme via des ateliers de rap. Et les choses changent, puisque, tu vois, on a eu ici à Marseille Chronique de Mars au MUCEM. Il y a quelques grands musées à Paris, à Marseille, qui commencent à mettre un peu le focus là-dessus. Il y a eu une réunion aussi récemment qui était à huis clos, là, il y a quelques semaines, où on a réuni des acteurs hip-hop de locaux avec des gens du service culture de la région, de la DRAC, donc la Direction régionale des arts et de la culture. Et c'est quelque chose qu'on a en 2017 et je pense que c'est quasiment inédit. Donc on en est encore à devoir
après, ouais,
défendre le fait que c'est une pratique culturelle, alors que paradoxalement, c'est la pratique culturelle globale la plus importante, ouais, au monde.
Karim ?
Pas grand chose à ajouter à ça.
Mais sur la façon dont les pouvoirs publics aussi commencent vraiment à se poser peut-être les bonnes questions, à part la mairie du 13-14.
Il y a des effets de génération. Ça se voit. C'est peut-être plus lent à émerger au niveau des politiques. C'est clair, les artistes ont été fer de lance. Assez rapidement après les artistes, il y a eu des
des médias, il y a eu des gens qui faisaient du business, qui étaient imprégnés des codes du hip-hop et qui ont réinventé des choses. Il y a des gens ensuite dans les associations culturelles, ben, de plus en plus effectivement dans des mairies. Donc ces gens-là sont susceptibles de faire bouger les choses parce que voilà, ils ont grandi avec cette musique, ils la mettent pas à distance comme quelque chose d'exotique et d'étrange, c'est quelque chose d'évident. Donc il y a des choses qui bougent, mais effectivement ça bouge lentement et ça bouge lentement parce qu'il y a toujours des fantasmes tout à fait décalés qui s'appliquent de façon homogène à ce qui est avant tout aujourd'hui une diversité. C'est pour ça que l'école du micro français, tout de suite, c'est vrai qu'il y a tellement de micros qui se sont ouverts en France pour des formes de rap depuis 30 ans qu'on en a encore beaucoup à découvrir, à raconter. Enfin, il y a beaucoup des anciennes et des nouvelles. Il y a des histoires du rap, pour le coup, là. Il y a des histoires du rap à raconter qui restent encore à redécouvrir.
Sylvain, le mot de la fin.
C'est très important ce qui a été dit tout à l'heure le hip-hop vu comme instrument politique, social. Et là, pour le coup, on est sur quelque chose de très français aussi. Ça existe aussi ailleurs, hein, je rassure tout le monde. Mais qui tient au côté très élitiste, intellectuel de la culture française, qui a toujours considéré la musique populaire comme un art mineur. On n'a pas forcément... Aux États-Unis, la culture, c'est la culture populaire, c'est la pop culture, c'est la même chose. Le rap, c'est la culture aux États-Unis. L'exemple, voilà, Obama va recevoir Jay-Z, c'est normal, ça n'arrive pas en France. En France, on vit toujours... Il y a une nouvelle génération qui arrive, des gens qui ont grandi avec le rap, donc ça change. Mais toujours cette idée que c'est un art mineur, mais c'est un outil, enfin, c'est une manifestation sociale, c'est un outil qu'on peut utiliser pour des raisons politiques et... Voilà, on doit toujours lutter un petit peu avec ce biais, cette perception fausse ou biaisée de ce que le rap est ou ce qu'il doit être.
Ou grâce à des personnages aussi comme Abdelmalik par exemple, qui a, on va dire, entre guillemets, conquis ses titres de noblesse avec son aspect plus, son approche plus littéraire des choses.
Il le fait, mais dans un sens, une nouvelle fois, très français, c'est-à-dire ouais. À partir du texte. Donc, il fait croire aux gens que le rap, moi je suis pas très Abdelmalik, vous allez l'entendre, il fait croire aux gens que le rap c'est du texte, c'est de la poésie. Or, c'est beaucoup plus que ça. Il renforce cette vision qu'il utilise du rap est renforcée en disant, regardez, le rap ça peut être de la poésie. Oui. Mais les gens ne comprennent toujours pas que c'est de la musique.
C'était mon point. Voilà, c'est.
Karim. Si je peux rebondir là-dessus, le rap aux États-Unis et le hip-hop aux États-Unis ont quand même imposé quelque chose. C'est, il me semble, la totale absurdité du clivage qui a quand même été structurant pendant tout le XXe siècle entre pop music et black ou race music. Et ça, cette victoire-là, on la doit dans l'ampleur qu'elle a aujourd'hui au hip-hop. Et aujourd'hui, effectivement, le hip-hop, et donc pas seulement le rap, pas seulement la diction, pas seulement l'interprétation, mais la composition, la production, les arts développés du DJ, le beatbox, tout l'ensemble des différentes formes musicales qui ont émergé dans le sillage du hip-hop ont réussi à faire voler en éclats très largement cette fracture-là. En France aussi, il y a d'autres lignes de partage et lignes de fracture, pas les mêmes, que le hip-hop cherche à faire éclater depuis 30 ans. Il y arrive difficilement parce qu'il y a énormément de résistance en face, mais avance. Et effectivement, c'est la question de l'inscription de la France et de sa représentation d'elle-même dans une logique post-coloniale, multiculturelle. Effectivement, ça fait grincer des dents, mais en réalité, c'est dans cette direction-là que... que la France avance et que le hip-hop l'a fait avancer, et c'est peut-être là-dessus aussi que Marseille a là aussi encore un temps d'avance.
On en reparle dans quelques années, messieurs. Merci en tout cas à tous les trois. Merci Karim Amou, je rappelle. Merci. Que votre ouvrage Une histoire du rap en France, c'est paru aux éditions La Découverte et agrémenté d'une postface inédite depuis 2-3 ans, c'est ça hein.
Et un blog qui l'accompagne sur unsonrap.hypothèse.org, plateforme Hypothèse, développée aussi à Marseille.
Merveilleux. On mettra tout ça sur radiogrenouille.com. Merci Karim Amou, merci Sylvain Berthaud. Mixtape vient de paraître au Mot et le Reste, et Julien Valnet, MARS, Histoire et Légende du Hip-Hop Marseillais, qu'est-ce que tu veux rajouter ?
Est-ce que je peux en profiter pour placer un tout petit truc ?
Vas-y.
Le 2 juin, à la Déviation à l'Estac, donc l'association Horizon Bitume et mon ami Cindy organiseront une grande après-midi, soirée hip-hop avec plein de valeurs, des belles valeurs, et c'est prix libre. Donc allez-y si vous êtes dans le coin, quoi.
Et on se donne rendez-vous au Village Hip-Hop aussi cette année ?
Il n'y aura pas cette année, mais par contre, on prévoit avec Radio Grenouille d'ailleurs, Inch'Allah. Un joli petit programme pour 2018.
Merveilleux. Merci beaucoup, messieurs,
merci beaucoup.
Pour essayer de se poser la question. Vous pouvez les applaudir, évidemment.
Dans un petit quart d'heure, c'est Monsieur Gel avec Caméléon de la Méthode qui nous rejoindra également Giorgio et Esprit Noir juste avant leur concert de ce soir, Prose au Petit Plateau. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était gratuit, mais non, c'est 5 euros. Ça se passera à partir de 19h30, 20h, ici même à la Friche, la Belle de Mai. Pour clôturer cette émission, un morceau, une petite Madeleine que j'ai aimé particulièrement, Quand je serai grand, de Fab, tiré de l'impertinent. Merci, messieurs. Ciao.
Ouais, c'est ça. 9-8 pour ceux qui partent et ceux qui partent pas, et surtout pour ceux qui partent pas. Ouais, c'est ça. Hein, écoute ça. Pour commencer, penser pour se lever de bonheur, qui bosse dur, imposture d'une vie sans trop de saveur, qui bosse 11 mois pour partir comme papa, un mois en vacances, qu'économise sinon ça passe pas. Ceux qui passent leur week-end dans les parcs et attendent leurs vacances comme les Français que les alliés débarquent. Quand j'étais gosse, j'avais de l'appréhension, ouais, de l'ambition. Je disais par amour, pas par prétention. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec mon père et ma mère, marcher dans le sable puis prendre le RER. J'avais 10 ans, c'était en 81, on est en 98, frérot. J'ai pas changé de numéro. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec, ouais, mon père et ma mère, marcher, ouais, dans le sable puis prendre le RER. C'est putain de tour, je veux plus les voir plus tard.
Pire que
je veux vivre autre part. J'ai même une idée si tu veux savoir. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec, ouais, mon père et ma mère, marcher, ouais, dans le sable puis prendre le RER. C'est putain de tour, je vais plus les voir plus tard. Je veux vivre autre part. J'ai même une idée si tu veux savoir. J'ai pas changé de numéro de département, seulement d'appartement. Grandi dans des quartiers appartenant à la majorité qu'une minorité possède. Ça m'obsède, comme les photos qui montrent au Club Med. T'as vu le prix que ça coûte un billet d'avion? J'ai découvert la Martinique à 26 ans, j'avais pas l'air con. Pourtant là-bas c'était chez moi, moi aussi. J'ai dû rester ici. L'été dans le train, tu peux rester assis. C'est l'avantage de pas avoir de pognon au mois d'août à Paris. À Paris, à Paris. Combien tu paries? Pendant que tu bronzes, y'a des gosses qui jouent au foot en bas de chez eux et ils t'emmerdent. J'ai grandi comme eux. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec, ouais, mon père et ma mère, marcher, ouais, dans le sable pour prendre le RER. C'est putain de tour, je veux plus les voir plus tard.
Pire que
je veux vivre autre part. J'ai même une idée si tu veux savoir. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec, ouais, mon père et ma mère, marcher, ouais, dans le sable pour prendre le RER. C'est putain de tour, je veux plus les voir plus tard.
Pire que
je veux vivre autre part. J'ai même une idée si tu veux savoir. Assis sur le ciment, torse nu, j'appelle un pote à la fenêtre, une bouteille d'eau fraîche, il m'a descendu. Cette année il reste ici, il était au bled l'année dernière. Et comme son père est le voisin de mon père, c'est pas un milliardaire. Alors on se promène tous les deux, on rencontre les autres. À l'époque y'avait pas trop de tox dans les rues, maintenant ils poussent comme des œufs à Pâques. Les gosses mettent le paquet, démarrent au quart de tour et foutent des taquets. Essaye d'attaquer, tu vas voir ce que c'est que le stress quand la vie te laisse de côté. Tu jalouses, tu blesses, tu testes, tu détestes. Ça en pèse dans la rue l'été, y'a des flics. T'es pas ami, ami, et la réalité, c'est qu'on a tous à peu près vécu la même, fait les mêmes colonies, les mêmes jeux de rôle, avec les mêmes thèmes. Je m'arrête ici, dédicace aux petits en bas de chez moi, en bas de chez toi, à ceux qui partent et ceux qui partent pas. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec, ouais, mon père et ma mère, marcher, ouais, dans le sable puis prendre le RER. C'est putain de tour, je veux plus les voir plus tard.
Pire que
je veux vivre autre part. J'ai même une idée si tu veux savoir. Quand je serai grand, je veux habiter à la mer avec, ouais, mon père et ma mère, marcher, ouais, dans le sable puis prendre le RER. C'est putain de tour, je veux plus les voir plus tard.
Pire que
je veux vivre autre part. J'ai même une idée si tu veux savoir.
Savoir.